Bonjour à tous. J'avais oublié à quel point les cultes de baptême sont généreux en nouvelles têtes. C'est un plaisir de pouvoir partager à un grand nombre de personnes ce que j'ai sur le cœur. Donc ce matin, effectivement, acte 8. Et comme je vous le disais, c'est une histoire de baptême. La caractéristique de celui-ci, de ce baptême, c'est d'avoir été un des premiers baptêmes de non-juifs. Et je vais donc lire dans le livre des Actes, dans la version du Semeur. Je ne l'afficherai pas à l'écran, mais vous pouvez le suivre soit dans votre version, soit juste écouter. Au verset 26, nous démarrons. « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi. » Pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau ! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Voici pour notre lecture ce matin. Est-ce que tu peux passer la diapo? Merci. Dans ce récit, une vérité ressort. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous. Quel que soit le statut social, la nationalité ou la situation personnelle, vous êtes tous les bienvenus dans la famille de Christ. Cette vérité, ce constat, sera le premier des axes abordés par cette prédication. Le second axe sera autour de la personne de Philippe. Au travers de son ministère, de ses actions pour le royaume de Dieu, nous nous demanderons ce que Dieu attend de nous une fois baptisés. Allez, qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ change pour ce haut dignitaire éthiopien? Qu'est-ce que cela vous dit à vous qui êtes en recherche de Dieu? Pour comprendre le sens du baptême pour cette personne, il faut revenir quelques milliers d'années en arrière. La loi de Moïse, qui peut être un peu crue, parfois, a posé une règle que je vais vous lire. Alors, désolé pour celles et ceux surtout les hommes d'ailleurs, qui trouvent que c'est un peu trop too much pour un dimanche matin, je ne fais que citer le texte biblique. Bref. Deutéronome 23, verset 2. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. Point. Si certains aujourd'hui doivent porter un costume quand ils sont en fonction, il se trouve que le dignitaire de notre récit est au service de la reine d'Éthiopie. Du fait que ce soit une reine et non un roi, cette fonction impose qu'il soit castré. De ce fait, et sans aucune considération de sa foi, cet eunuque se trouve exclu, à cause du Deutéronome, de l'assemblée de l'Éternel. Ce que nous savons de sa foi est qu'elle a été suffisamment forte pour qu'il fasse un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour venir adorer Dieu au temple de Jérusalem. Nous savons aussi qu'au moment où Philippe le rencontre, il lisait le livre d'Ésaïe. Fort de cela, j'imagine donc que s'il était descendant d'Abraham et qu'il avait encore, disons, toute sa virilité masculine, il serait un membre zélé du peuple juif. Sa venue à Jérusalem pour adorer Dieu, malgré le fait que la loi l'exclut d'office, laisse penser qu'il fait ce voyage vraiment à cause de sa foi et non pas à cause d'une quelconque obligation ou d'une règle. Il sait que cet acte de foi ne lui permettra pas d'acquérir quoi que ce soit de plus de la part du peuple hébreu. Luc est l'auteur du livre des Actes, ici, ne fait pas vraiment mention de sa foi. Il ne la qualifie pas. Toutefois, moi je crois que l'auteur prend soin de nous préciser, à nos lecteurs, sa qualité d'eunuque et le but aussi de son voyage, pour nous laisser en déduire par nous-mêmes de la qualité de sa foi. De plus, si on prend un peu de recul par rapport à ce texte, il est intéressant de noter, donc dans la volonté de l'auteur, où nous en sommes dans le récit global. Tout commence par l'annonce de la mission par Jésus à ses disciples en Actes 1, verset 8. Vous irez à Jérusalem, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Les premiers chapitres du livre des Actes se passent effectivement à Jérusalem. Ensuite vient la prédication d'Étienne, puis son exécution, malheureusement, suivie par ricochet de la persécution de tous les chrétiens qui étaient en Judée. Ces derniers partent donc, se dispersent et atteignent dans un premier temps la Samarie où Philippe prêche l'évangile. Nous sommes ici dans la première partie du chapitre 8, celle que je n'ai pas lue finalement. Le chapitre suivant, donc le chapitre 9, racontera l'évangélisation d'une famille romaine. Nous avons donc ici une progression géographique du récit. Plus important, et c'est le sous-texte de la mission que donne Jésus en Actes 1-8, nous avons une progression tant quant au statut de la personne qui est touchée par l'évangile. En Samarie, comprenez par là que l'évangile touche les faux frères spirituels, les Samaritains. C'est un peuple historiquement plus proche du peuple juif, mais qui, à l'époque, n'était pas considéré par ces derniers comme le vrai peuple de Dieu. Avec l'Éthiopien, nous avons une progression en dehors de tout lien familial, même distant ou lien historique, vers une catégorie de personnes que l'on peut qualifier de craignant Dieu. Finalement, avec l'officier romain, nous progressons encore un peu plus, et là, vers un peuple païen, et qui plus est à cette époque, qui étaient les ennemis politiques des Juifs. Et pour rappel, les Romains sont polythéistes, ce qui les éloigne d'autant plus du concept du Dieu unique. Voilà pour le contexte. Par conséquent, que ce soit ce texte nous parlant de la situation personnelle de l'eunuque ou l'ensemble des chapitres 7, 8, 9, le récit dit une même chose. Tout le monde est le bienvenu dans la famille de Christ. Il n'y a d'autre critère d'acceptation que la foi. Nous sommes tous les bienvenus. Alors, comme j'aime bien illustrer mes propos, je vous ai retrouvé une petite vidéo. Alors, pas de l'époque, hein, vous allez voir. Je vous laisse avec Maxime et moi, je vous retrouve dans 2 minutes. Est-ce que vous pouvez envoyer la vidéo en régie, s'il vous plaît?
Bon, je voyage pour guider qui entre dans le discothèque et qui en pont, ok? Je dis, c'est moi, guider qui entre dans le discothèque et qui en pont. Qui en pont, mon guider, d'accord? Bon, mon guider, hein? Quand je dis qu'il va, qui va, quand je dis qu'il va pas, qui en pont. Bon, bah, arrêtez pas ton copain, qui vient son copain, qui vient son copain, qui vient son copain. Juste le copain, tout le copain. Mon guider, hein? Bonjour. D'où tu vas? Enfin, d'où tu crois que tu vas? Non, dis on va. Oh, il y a encore une discothèque. Non, je dis qu'il y a encore une discothèque. Ben, j'ai pas ta tête. Oh, bon. Oh, oh. D'où tu vas, ça? Pas de basket dans la discothèque. Je dis pas de basket dans la discothèque. Ben, pas de pour qui, pourquoi, ça, tu dis, oh, je t'explique, t'as des pieds, ouais, avec des orteils, ouais, avec des baskets tout autour, ouais, mais t'es en beau. Non, il est marqué dans le règlement, est marqué. Si là, des baskets, t'es en beau, Quand t'as des baskets, t'es en beau, J'y t'en déjà, viens ici. Quand es-tu déjà venu? Tu veux jouer? On va jouer. As-tu une carte de mots? Une carte de mots, allez, tape. Et on va! Ah, je suis, t'as une carte, t'as la porte, il y a une carte de mots environ, t'as la porte. Tu veux le baiser? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont avec eux? Ils n'ont pas de carte de mots? Pas grave, les filles. C'est énervant, quoi, les filles. Comment on fait pour avoir une carte de mots? À l'intérieur. Et quand tu rentres, non, il est marqué dans le règlement est marqué. Si là, pas de carte de mort, bien en bas, Toi, t'as pas de carte de mort, bah, t'es en bas. Eux ont compris, pourquoi pas toi?
Ok. Injustice. Dans ce texte, le videur, en sa qualité de despote de la porte d'entrée, décide des règles. Voilà. Le dernier passage dans ce sketch est pour moi le plus pertinent par rapport à ce que je veux dire. Il est blessé, attaqué sur son usage plus qu'approximatif des règles de grammaire, même avec l'accent ch'ti. Et là, il utilise à fond son pouvoir pour refuser l'entrée à celui qui n'a pas sa carte de membre, tout en sachant que la carte n'est disponible qu'à l'intérieur. Notre eunuque éthiopien, pardon de revenir sur le texte, hein, se retrouve d'une certaine manière dans la même situation. Sans Christ, sa foi ne suffit pas pour pouvoir rentrer dans le peuple de Dieu. L'action de Jésus, c'est d'accomplir toutes les règles d'admission au nom de celui qui a foi en lui. À un moment du sketch, le videur a salué une habituée et laissé entrer tous ses amis, même s'ils n'avaient pas leur carte de membre. Ça vous est peut-être dans le sketch paru un peu injuste, mais la justice de Dieu par Jésus-Christ ressemble un peu à ça. Si nous sommes avec Jésus, on peut rentrer. Voilà. Je m'arrête là pour la comparaison. L'œuvre de Dieu est ô combien plus sérieuse et parfaitement construite comparée à cette série d'injustices qui se joue ici dans ce sketch. Que nous apporte ce récit? Eh bien, ça dépend de ma position, de notre position vis-à-vis de l'Évangile. Si vous n'avez pas accepté l'œuvre de Christ et le pardon de Dieu pour votre vie, entendez et comprenez que seule votre foi, à l'image de celle du dignitaire, est nécessaire. Rien dans votre passé, d'où vous venez, de qui sont vos parents, du nombre d'années d'études de théologie que vous avez fait, ne justifie ou n'empêche, à l'inverse, votre accès au pardon de Dieu. Et par conséquent, de faire partie de la grande famille des chrétiens et d'obtenir pour vous la promesse d'une vie éternelle avec le Créateur de la terre. C'est seulement par votre foi et celle que vous avez maintenant en Jésus-Christ que vous pouvez accéder ou non à tout ça. C'est de cela que nous ont parlé les baptisés ce matin quand ils ont pris cette place et leur courage de main pour vous exposer leur témoignage. C'est cette foi en Christ qu'ils ont confessé devant nous, les pieds dans l'eau. Leur parcours de foi, leur cheminement pointe sur un seul moment, celui où ils ont accepté que Christ est mort injustement pour eux. Et vous, où en êtes-vous dans votre foi? Si vous avez déjà fait ce pas de foi, il me semble que ce récit peut aussi nous parler. Autant, vous l'avez vu, ce premier axe était centré sur le dignitaire éthiopien, autant je vous propose de regarder du côté de Philippe, notre second personnage pour cette deuxième partie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous une fois baptisés? Alors, chère Sylvie et Edier, vous êtes donc maintenant concernés. Que savons-nous de Philippe? Pas énormément de choses. Son nom est simplement cité au chapitre 6 du livre des Actes. Il n'est pas du tout présent dans le chapitre 7. Et le chapitre 8 lui est dédié. Après ça, on n'a entendu plus parler. Une mission lui a été confiée par les apôtres au chapitre 6, c'est de s'occuper des distributions. C'est, je crois, plus un rôle d'organisateur avec une vraie dimension sociale. Je cite acte 6, verset 2, où les 12 apôtres disent « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions ». Distributions qui reviennent donc à Philippe et six autres camarades. Et pourtant, nous voyons qu'il réalise une autre mission, ici sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, au chapitre 8. Nous avons lu dans ce chapitre qu'il a ici un rôle de prédicateur. Il annonce l'Évangile, il réalise des miracles, il est au bénéfice de la puissance divine quand, par exemple, Dieu le téléporte à Ashdod, à la fin du chapitre. Le ministère de Philippe, bien que démarrant sur un aspect d'assistance matérielle et logistique à la communauté de Jérusalem, se retrouve au centre de l'ouverture du royaume de Dieu au peuple non-juif, d'abord en Samarie, puis aux craignants Dieu. En effet, au verset 3 du même chapitre 6, j'ai oublié une phrase. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les apôtres ont fait une erreur de casting en élisant Philippe diacre pour s'occuper de la communauté à Jérusalem? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que au verset 3 du chapitre 6, les apôtres donnent pour instruction de choisir sept hommes réputés comme dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Voilà les trois critères. Ils ne sont pas ici choisis sur leurs compétences organisationnelles ou de leadership. Ce ne sont pas les compétences techniques du poste à pourvoir qui sont mis en avant, mais c'est avant tout une attitude spirituelle. Alors que la communauté s'est dispersée face à la persécution qui sévit à Jérusalem, il n'est donc pas franchement étonnant de retrouver un de ces sept hommes Philippe, guidé par l'Esprit Saint pour être au cœur d'actions d'évangélisation de la part de Dieu. Le Seigneur reconnaît sa foi et sa proximité avec le Saint-Esprit. Dans ce récit, l'auteur du texte montre que Dieu guide et donne des ordres à Philippe. Celui-ci agit et nous retrouvons des mots d'action dans le texte. Alors, je cite verset 27 immédiatement, verset 30, Philippe courut, verset 35, Philippe prit la parole et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philippe, il agit. Les apôtres au chapitre 6 et l'Éternel au chapitre 8 reconnaissent en Philippe une foi réelle et vivante. C'est à cause de celle-ci, de cette foi, qu'il est choisi pour réaliser des œuvres pour le royaume de Dieu. Cette manière d'attribuer plus de crédit à l'attitude d'une personne plutôt qu'à ses compétences n'est pas toujours la norme de notre société. Je pense notamment au monde de l'entreprise où il faut prouver dans son CV qu'on a les compétences, l'expérience pour tenir le poste. Toutefois, il me semble que les enseignants ont parfois la finesse du jugement qui permet à la fois de juger des résultats et à la fois de la personnalité, de l'envie, du courage de l'élève. Peut-être que si vous avez des enfants, vous avez été enfant en tout cas, vous avez déjà lu une appréciation de fin de trimestre du style « a les compétences mais ne se donne pas les moyens » ou encore « pourrait avoir de bons résultats s'il se mettait au boulot ». À l'inverse, des encouragements pourraient être donnés à celui qui cherche à progresser. Encore quelques difficultés, mais on voit qu'il y a du travail, continue. Ou encore, elle a adopté une attitude studieuse qui donnera des résultats prometteurs. Bravo. Dans la même idée, Dieu ne recherche pas des personnes compétentes pour faire sa mission. Il cherche des cœurs qui sont bien disposés, une foi vivante, une envie d'annoncer l'Évangile. Pensons-nous être à la hauteur pour annoncer l'Évangile ? Il n'est pas nécessaire d'aligner un CV de VRP senior pour parler de Christ. Notre foi suffit et Dieu fera le reste. Je crois que cette attitude, cette manière de penser peut s'appliquer à n'importe quel ministère dans l'Église. L'attitude de Dieu envers Philippe laisse à penser que Dieu apportera aux croyants, aux missionnaires, toute la compétence nécessaire pour mener à bien sa mission. La qualité qu'il recherche en nous est celle de la foi, de la communion avec l'Esprit-Saint. Ne limitons pas notre champ d'action pour la croissance du royaume de Dieu à nos seules compétences techniques. Soyons remplis du Saint-Esprit par une foi vivante et croyons que Dieu fera le reste. À la suite de l'étude de ce texte, que gardez-vous en tête au moment de démarrer une nouvelle semaine ? Ou dans le cas de Dierre ou de Sylvie, une nouvelle vie avec Christ ? Nous avons ressorti deux enseignements de ce texte pour, comme vous l'avez vu, deux publics distincts. Nous venons de parler aux croyants que la foi et la communion avec l'Esprit-Saint sont la base sur laquelle Dieu nous met en mouvement. Recherchons avec persévérance ces deux choses dans notre vie quotidienne. Ne limitons pas forcément nos engagements dans l'Église à nos seules compétences techniques. Dieu peut toutes choses et saura nous surprendre dans les missions qu'il nous donne. Et nous avions commencé l'étude de ce texte autour du baptême qui a eu lieu. Ne retenez qu'une seule chose à vous qui n'avez pas accepté Jésus dans votre vie. Vous êtes les bienvenus dans la famille de Christ. Si vous avez le désir de croire en Dieu, croyez-le et ce sera le cas. Il n'y a rien dans votre histoire ou dans votre personnalité qui ne vous empêche de faire ce pas vers Dieu. Amen.